aux petits soins de nos clients dans plus de 14 pays d'Afrique, Suno Assurance vous fait profiter d'une assurance santé toute option, où que vous soyez. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Quand nous parlons, nos mots coulent, se suivent, s'articulent. Notre élocution trouve son rythme, cette fluidité qui permet de communiquer avec harmonie. Mais pour certains d'entre nous, environ 5% des enfants, les syllabes se répètent, s'étirent, se bloquent et la parole devient hésitante, parfois pénible pour la personne qui souffre de bégaiement, comme pour son entourage, témoin de ses difficultés, sans savoir toujours comment bien réagir. De cette tension du verbe peut naître un malaise général, un repli sur soi, une peur d'échouer, la crainte de s'exprimer. Des prises en charge existent pour ce trouble de la parole. Des soignants, des praticiens s'impliquent dans ce travail de rééducation. Des séances soutenues par l'attitude de celles et de ceux qui côtoient la personne qui souffre de bégaiement pour l'accompagner dans son travail, sa famille, ses amis, le milieu scolaire ou professionnel. Au-delà du cheminement personnel pour retrouver cette élocution régulière, le regard des autres est déterminant pour progresser dans cet apprentissage de la confiance en soi. Pour en parler avec nous en studio, Isabelle Lecron-Miossec, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes orthophoniste à Paris. Et avec nous également, Annelise Giraud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en neurosciences, professeur et directrice d'un laboratoire de recherche sur le cerveau, l'audition et le langage à l'Université de Genève. Vous avez signé l'ouvrage « Le cerveau et les mots, M-A-U-X de la parole, aphasie, dyslexie, surdité, bégaiement » paru aux éditions Odile Jacob. Et tout à l'heure, nous allons rejoindre au Gabon le docteur André Andouna Depeno, orthophoniste au CHUO de Libreville, service otorhino-laryngologiste. En fin d'émission, on va retrouver la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Notre numéro, bien sûr, vous pouvez poser toutes vos questions et témoigner. Ce numéro, c'est le 33 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Isabelle Lecron-Miossec, lorsqu'on parle du bégaiement, on parle d'un trouble de la communication et non d'un trouble du langage. C'est quoi la différence entre les deux ?
Alors, le trouble de la communication, c'est vraiment un trouble de l'échange. Hein. On a, dans le bégaiement, on dit qu'on peut pas, on bégaye pas seul, hein, on bégaye en face de quelqu'un. L'expression de ce que l'on veut dire va être troublée et pourquoi pas le regard de l'autre, etc. Le trouble du langage, effectivement, que ce soit un retard de parole ou autre, ça dépend après si c'est oral ou écrit, mais effectivement, il va être complètement différent avec une symptomatologie différente.
Isabelle Lecron-Miossec, ça veut dire simplement que les gens qui bégaient ont les mots, ont absolument le verbe, absolument, mais ils n'ont pas l'éloquence ou ce qu'on appelle un terme, on dit fluidité, on dit fluence.
Fluence.
Pourquoi justement cette distinction entre les deux ? C'est à peu près la même chose.
Oui, tout à fait, hein, l'affluence et la fluidité. Effectivement, c'est un trouble du rythme de la parole, en fait. Hein. Ils ont les mots, effectivement, et ils ont, on le voit clairement, quand le mot qu'ils veulent dire ne va pas être possible pour eux, et ils vont en chercher un autre. Donc ça, c'est souvent très compliqué, parce que ils vont prendre un autre mot qui n'est pas forcément celui qu'ils avaient initialement prévu, mais qui va quand même s'approcher, parce que l'autre n'est pas possible.
Alors pourquoi justement cette impression d'effort, de tension, de crispation quasi physique hein, qui se ressent dans l'attitude, dans l'expression de la personne qui bégait ?
En fait, c'est vrai que quand on parle, on mobilise à la fois tout le système respiratoire, ensuite le larynx, après un petit peu plus haut, effectivement la bouche, la langue, hein, tous les résonateurs. Et le blocage peut se faire à divers niveaux. Hein. Il peut être déjà au niveau du ventre, il n'y a pas encore la crispation au niveau de la bouche. Il peut être juste au moment où les lèvres vont se toucher, hein, par exemple dans un p comme pour papa, par exemple. Et effectivement, les tensions au niveau laryngé et buccal peuvent aussi s'accompagner de tensions de tout le corps. Hein, on voit parfois aussi des clignements d'yeux, etc., des tensions musculaires de tout le corps. Et chez certaines personnes, c'est parfois très impressionnant.
Agnès Giraud, dans quelle mesure la connaissance de l'activité cérébrale, hein, c'est votre spécialité, eh bien, qu'est-ce que ça offre quand on fait par exemple une imagerie cérébrale, IRM, pour comprendre pourquoi la parole ne marche pas, ce dysfonctionnement de la parole?
Alors, c'est en effet très intéressant de mettre des sujets... par exemple, qui bégaye dans un scanner IRM, on peut à ce moment-là voir les régions qui vont s'activer lorsqu'ils produisent la parole, voire lorsqu'ils bloquent. Il se trouve que dans un scanner IRM, il y a beaucoup de bruit et que le bruit fluidifie la parole. Donc, lorsqu'on fait ces expériences-là, nos sujets, ils ont une parole fluide. Donc, on va voir à la fois les choses qui dysfonctionnent, mais aussi tous les mécanismes qu'ils ont mis en jeu pour compenser. Et beaucoup de ce que ma collègue disait, qui participe du bégaiement, ces crispations, etc., sont en fait des choses qui viennent secondairement à un trouble qui peut se voir à l'intérieur du cerveau.
Ça veut dire que, par exemple, un spécialiste qui examinerait quelqu'un sans savoir qu'il bégait, en voyant l'image de son cerveau au moment de la formulation des mots, il pourrait dire, là, il y a un problème, peut-être que ce sujet bégaye.
Alors, ça, c'est compliqué dans le sens où chaque personne qui bégaye va avoir des petites anomalies qui sont sensiblement différentes. Il y a des anomalies que nous, on voit qui sont communes, notamment dans la région de la planification de la parole, qui est à l'avant du cerveau, dans le cortex préfrontal.
C'est plus un objet d'étude ou c'est pas un objet de diagnostic, en tout cas?
Alors, le diagnostic, c'est en train d'évoluer. C'est-à-dire, vous me dites... une personne va pouvoir voir si un sujet bégaye. Je dirais que pas forcément une personne, mais maintenant on fait de l'apprentissage machine et les machines vont très rapidement pouvoir en effet voir si un sujet, si c'est le cerveau d'un sujet qui bégaye ou pas.
Alors Isabelle Lecromiossec, davantage de garçons que de filles ont un bégaiement persistant. Est-ce qu'on peut l'expliquer ?
Écoutez, ça c'est un petit peu, je crois pas qu'on l'explique vraiment, sinon que on a quand même toujours un petit peu dit que les filles étaient avaient un langage un peu plus facile, étaient peut-être plus dans le verbe que les garçons qui eux sont plus dans les activités physiques.
Avec notamment davantage d'interactions mère-enfant lorsque la mère s'adresse peut-être aussi à une petite fille qu'à un petit garçon.
Peut-être, là on entre dans effectivement un sujet un peu plus complexe. Après, je pense qu'il y a quand même... au niveau des circuits neuronaux, des différences évidemment entre les garçons et les filles. Hein. Là, c'est peut-être plus ma collègue qui pourrait en parler.
Justement, sur cette précocité de l'apparition, Annelise Giraud, le bégaiement apparaît le plus souvent pendant l'enfance. Est-ce qu'on peut l'expliquer sur cette justement survenue très précoce?
Alors, le bégaiement est principalement un trouble neurodéveloppemental, tout comme la dyslexie et d'autres troubles. Donc, a priori, on ne sait pas exactement comment ça se passe, mais il y a des phases de développement. Et si, à une certaine phase de développement, les neurones ne se mettent pas en place exactement comme il faudrait, on va avoir des troubles comme ça, qui peuvent être transitoires, puisque comme le cerveau de l'enfant est très plastique, il est encore très modulable, et ben il va immédiatement mettre en place des stratégies de compensation.
Alors, compensation, justement, pour éviter tout ce ressenti très douloureux, Annelise Giraud, cette souffrance pour l'entourage, on la ressent d'ailleurs, on l'observe pour tous ces troubles de la parole que vous étudiez dans votre livre. Justement, est-ce que le sujet peut justement faire évoluer son bégaiement différemment en fonction de ce vécu du trouble ?
Je sais pas, c'est peut-être...
C'est une question compliquée. Est-ce que justement les choses évoluent je sais pas, Isabelle Lecromiossec, on va en parler tout à l'heure avec nos auditeurs, ces parents qui appellent et qui vont dire comment je peux gérer ça. C'est déjà une volonté de vouloir changer les choses. Oui. Mais est-ce que sur l'évolution, le ressenti peut être déterminant?
Oui, tout à fait. Et effectivement, il y a une chose vraiment importante qui est l'acceptation de son bégaiement. C'est vrai qu'on voit très souvent des patients qui arrivent avec des années de souffrance où ils ont fui leur bégaiement et essayé de le cacher à tout prix. On voit même parfois des bégaiements qu'on appelle des bégaiements masqués, hein, c'est-à-dire qu'on n'entend absolument pas les disfluences et la personne est en lutte permanente avec sa parole. Donc ces patients qui arrivent en général sont totalement épuisés et nous disent j'en peux plus, j'en ai assez de fuir, voilà, là maintenant j'ai envie de faire quelque chose pour mon bégaiement.
Est-ce que pour le bégaiement justement la notion de précocité de la prise en charge c'est important? Est-ce que plus c'est installé depuis longtemps, oui, plus c'est difficile à régler?
Tout à fait, on dit vraiment que moins longtemps l'enfant ou la personne a bégayé, plus vite la récupération pourra se faire. Et essentiellement parce que très rapidement l'enfant et a fortiori ensuite l'adulte, met en place des attitudes réactionnelles à son bégaiement. Et justement, de forçage, d'évitement, etc., qui vont ensuite conditionner la parole future.
Et tout de suite, on va donner la parole à nos auditeurs, justement, on va voir les problématiques qui se posent, notamment au sein des familles, entre les parents et les enfants. Isabelle Lecron-Miossec, Annelise Giraud, vous allez tout de suite réagir à ces questions. Le premier de ces auditeurs nous appelle du Gabon, de Libreville. C'est Karl Johan. Bonjour Karl Johan.
Bonjour madame.
On vous écoute.
Voilà, en fait, moi je voulais réagir, c'était par rapport au thème de votre émission qui est particulièrement intéressant parce que moi-même je suis un bec. Enfin, maintenant je peux dire j'étais parce que je suis commencé à monter. Et quand j'entendais la dame dire avant là que faut pas en faire un obstacle, et en général on cherche des voies et moyens pour essayer de pallier au fait qu'on bute sur un mot, on bute sur une expression et tout. Alors moi quand j'étais petit, je piquais, et pour pallier à ça, je me renfermais dans des livres. Alors je lisais beaucoup et je me suis rendu compte que je pouvais ne pas buter sur le même mot, parce que plus on bute, plus on insiste, et puis voilà, et puis après ça va en vrac, j'ai changé de mot. C'est-à-dire, je remplaçais certains mots de ma phrase par d'autres. D'abord, je raccourcis la phrase, et puis voilà, quoi.
Karl Johan, on entend bien votre question, j'ai juste une petite question technique. Est-ce que vous n'êtes pas en train de parler au haut-parleur? Est-ce que vous êtes bien dans l'appareil, parce que vous êtes un peu lointain, là?
Non, je suis pas au parleur.
D'accord.
Alors, comme je disais, j'utilise en général des mots que je remplace. C'est-à-dire, quand je donne une phrase, enfin, avant, parce que maintenant ça va mieux, ça va beaucoup mieux pour moi. Alors, pour pallier à ça, je remplaçais les mots. Et c'est comme ça que j'ai pu m'en sortir, parce que déjà à l'école, j'étais très marginalisé par rapport à ça. Quand on est bègue à l'école, on est un peu sujet de moquer avec des amis et tout. Et je me renfermais en général dans les bouquins.
Et cette technique, vous l'avez acquise vous-même? C'est vous qui vous êtes dit d'abord les livres, ça va me permettre de continuer à communiquer, mais surtout trouver des méthodes pour un petit peu surmonter votre bégaiement. Vous avez fait ça tout seul?
Tout seul, oui, tout seul. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, quand je lis à haute voix, ben, je bégaye pas. Donc voilà, j'ai mis cette technique sur pied pour pouvoir m'en sortir. Alors moi ça a marché un peu, mais le truc c'est que ensuite j'ai eu après une fille qui elle aussi est arrivée avec le même souci. Et c'est plus cru encore, parce que des fois elle en pleure même. Alors je lui calme, des fois elle me dit en pleurant, mais papa ça veut pas sortir, alors je lui parle, je lui demande de parler plus doucement et de respirer, surtout respirer. Tout en but c'est vraiment, il faut pas insister. Et alors ça marche pour moi, bon je dirais pas que ça va marcher pour elle, chaque individu né avec sa personnalité. Par exemple le même procédé, c'est-à-dire que quand j'ai senti sa butte, elle pleure, elle se fâche, elle s'énerve, bon je le calme. Et ensuite je lui remets un livre et je pense qu'elle me le lit à haute voix.
Elle a quel âge votre fille, excusez-moi Karl Johan, elle a quel âge votre fille, est-ce qu'elle va à l'école?
Elle va à l'école, elle a 7 ans.
Elle a 7 ans. Et elle a des difficultés à l'école, ça se passe comment?
Par exemple, à l'école, je discute déjà avec sa maîtresse, parce qu'elle est en deuxième année, j'ai discuté avec sa maîtresse et j'ai expliqué à sa maîtresse que bon voilà, ça peut répondre à un handicap, mais bon voilà, c'est une difficulté que je pense qu'on peut pallier. Et comme madame disait, plus tôt on s'y met et plus tôt on trouve les solutions, quoi. Et la solution en général, c'est pas enfin, pour moi, je me dis, il faut respirer, il faut rester tranquille, il faut rester calme et ne pas s'énerver. En général, ici à Libreville, quand on fait les bègues, on parle d'un sujet de mon pays, même pour des adultes.
Et
particulièrement, bon, je le fais lire à haute voix, j'en ai parlé avec sa maîtresse, et j'ai dit à sa maîtresse de ne pas insister. Si elle bute, on lui laisse se calmer, et puis voilà, on trouve le moyen de trouver un autre moyen qu'elle puisse s'exprimer.
Isabelle Le Cromieux-Sec, on entend Carl Johan qui a lui-même en fait essayé de réparer son problème. Il essaye un peu d'avoir la même méthode pour sa fille. Est-ce que c'est recommandé quand on peut faire autrement, bien sûr, hein, c'est pas toujours facile d'avoir accès à l'orthophonie partout dans le monde, mais est-ce qu'il n'est pas quand même plus recommandé d'aller voir un professionnel pour envisager cette rééducation?
Oui, bien sûr, ce serait absolument idéal, hein, de pouvoir effectivement consulter une orthophoniste, hein, pour sa fille de 7 ans. À 7 ans, en général, le bégaiement est déjà un petit peu installé, hein, donc il faut quand même s'en occuper. C'est une très très bonne attitude d'avoir été parler à la maîtresse de votre fille, effectivement, parce que souvent les enseignants sont un petit peu désemparés, savent pas trop comment faire et connaissent pas très bien le bégaiement. Du coup, il y a d'ailleurs des petites plaquettes et des pliants, hein, qui ont été faits par l'association Parole Bégaiement, hein, qui est très 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 active en France, et on peut aller sur le site qui est bien fait. Il y a des plaquettes qui sont tout spécialement destinées aux enseignants et d'autres qui sont plus spécialement destinées aux parents. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup de conseils. Alors, après, pour ce qui est des conseils, effectivement, dire calme-toi, respire. Alors, c'est tout à fait normal, hein, de réagir comme ça, parce que voir son enfant qui bégaye, c'est pas facile, d'autant plus que vous connaissez bien, vous, la question, pour avoir mis en place plein de stratégies. Donc, vous n'avez sûrement pas envie que votre fille bégaye toute sa vie. Alors, effectivement, quand on est dans un blocage et dans une situation très tendue, c'est difficile de se calmer comme ça d'un seul coup. Hein, donc, lui dire « respire, calme-toi », ça va être très compliqué pour elle. Alors, c'est souvent préconisé de plutôt essayez-vous de rester calme, de parler peut-être un petit peu plus lentement que ce que vous faites habituellement, en la regardant bien en face, ce qui va permettre de rétablir la communication, de la rassurer, et du coup, ça va lui donner plus confiance et elle va pouvoir continuer ce qu'elle a envie de dire.
Et Carl Johan, moi, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, on sera en ligne avec un orthophoniste qui se trouve à Libreville, hein, où vous habitez au Gabon, au CHU de Libreville. Donc, il y a un service compétent. Si vous avez envie de conduire votre petite fille pour envisager une rééducation avec un professionnel, eh bien, c'est là, Carl Johan, que vous pouvez vous adresser. Et on vous souhaite bien sûr une excellente journée à Libreville, au Gabon. On va prendre un deuxième auditeur. C'est Abdoulaye qui est en ligne du Sénégal, de Dakar. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour Caroline.
On vous écoute Abdoulaye.
Voilà, mon problème à moi est un peu différent parce que c'est mon enfant qui a aujourd'hui 16 ans qui au départ, dans sa petite enfance, il n'était pas bègue, mais c'est à partir de 5-6 ans que ça a commencé. Il était très actif, très débrouillard, mais de plus en plus, plus il prend de l'âge, plus il devient bègue. Et plus il est calme, il est devenu très très calme. Le seul moment où il bouge réellement, c'est quand il joue au football ou il suit le football. Il est passionné de football. C'est à ce moment qu'on peut le sentir. Mais sinon, il est toujours recroquevillé sur lui-même. Il est un peu trop calme à mon sens, et ça m'inquiète. D'autant plus qu'il vient de réussir à son examen du BFEM. Il devait faire la classe de seconde cette année à la rentrée. Malheureusement, il ne veut plus aller à l'école.
Pourquoi? Parce qu'il a peur du regard des autres. Il est gêné de parler devant les autres, c'est pour cela?
En réalité, pour l'école, il dit pas que il m'a répété qu'il n'a plus envie d'aller à l'école. Il veut faire une formation professionnelle, il veut aller à l'école de football. Mais le problème, il ne s'est également jamais plaint du regard des autres sur sa situation.
Et il a des amis, il venait avec des camarades de classe, par exemple, à la maison?
Oui, il venait de temps en temps avec des camarades de classe à la maison.
Et quand il a dit « je veux arrêter l'école », il a fait le lien entre son bégaiement et justement ce renoncement?
Non, justement, il n'a pas fait le lien, mais c'est juste moi, ma manière de voir, comme je le comprends, tel que je le comprends, je pense qu'il manque de confiance. Là, il manque de plus en plus de confiance en lui-même. Alors,
Isabelle Lecromieux-Sec, c'est l'enfant, le fils d'Abdoulaye, donc on sent que le bégaiement s'est installé, oui. Hein, et a une atteinte psychologique dans sa relation aux autres, une confiance en lui-même qui est totalement ébranlée.
Oui, absolument. Alors là, effectivement, on se rend compte à quel point les attitudes et les sentiments réactionnels à ce bégaiement se sont mis en place hein, chez Abdoulaye, où effectivement, il supporte plus du tout le regard des autres, parce que quand il dit « je veux plus aller à l'école », c'est bien que ça lui est devenu totalement insupportable. Et qu'il
Malgré
sa réussite personnelle, effectivement. Hein, on sait qu'un enfant ou un jeune qui bégaye, très souvent, va avoir la réponse, mais va pas la dire en classe parce qu'il a trop peur de la dire. Et effectivement, donc c'est très 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 compliqué pour eux de rétablir cette communication. Et quand il y a un repli comme ça qui est déjà un petit peu important, c'est vraiment assez fondamental de pouvoir rencontrer d'autres jeunes hein, qui bégayent. Alors c'est peut-être pas forcément évident là où vous êtes, mais les groupes, dans ce cas-là, thérapeutiques, sont extrêmement efficaces. Hein. L'enfant en voit d'autres, le jeune en voit d'autres. Il se dit que finalement, son bégaiement, il n'est pas forcément si grave. Il relativise un peu. On met les jeunes en situation, etc. Alors, je ne sais pas, faudrait vous renseigner sur les possibilités. C'est peut-être pas facile. Allez voir sur le site hein, de l'association. Il y a aussi des adresses et vous pouvez toujours envoyer à la secrétaire de l'association en précisant exactement où vous êtes
Parole
pour
Bégaiement,
qu'elle vous donne
toujours.
L'association Parole Bégaiement.
On mettra le lien sur notre site internet.
Voilà, pour qu'elle vous donne effectivement les adresses des gens qui peut-être vont faire ça. Sinon, il existe aussi le format du stage intensif. Alors évidemment, il y en a en France.
Il faut qu'il y ait de l'accessibilité, c'est toujours
voilà,
le même problème.
Faut que ce soit accessible. Alors sur une semaine pendant l'été, où là les jeunes et les adultes sont vraiment en immersion totale et vont pouvoir travailler sur leurs habiletés de communication. Et en général, ils ressortent de ce stage avec une confiance qui a vraiment été regagnée, une meilleure estime d'eux-mêmes. Et du coup, on peut repartir. Alors, d'un point de vue pratique à voir, renseignez-vous. Il y a parfois aussi des formats de 2 jours qui peuvent être intéressants. Alors évidemment, 2 jours, c'est un petit peu moins, mais ça peut être aussi fort intéressant.
Abdoulaye, est-ce que vous savez si près de chez vous, en tout cas à Dakar, il y a des ressources en orthophonie, s'il y a des groupes de parole, si quelqu'un justement peut aider votre fils pour qu'il se sorte de cette situation d'isolement?
En fait, non, je n'ai pas connaissance de ce genre de structure. Mmh. Par ailleurs, j'aimerais préciser qu'il a également 2 frères qui sont bègues. Sa maman également, elle est bègue.
Et ça se passe bien pour eux ou eux aussi se sont repliés, se sont entre guillemets exclus du système scolaire?
Non, effectivement, l'un ne va plus à l'école, c'est l'aîné, il ne va plus à l'école depuis très longtemps, il a arrêté de vivre depuis la classe de 5e. Maintenant, l'autre est à l'université, Cheikhanta Diop.
Bon, donc il y en a pour qui c'est le mieux.
Voilà. Maintenant, je ne sais pas si c'est héréditaire, quel est le problème.
On a un autre auditeur du Bukavu RDC Vital qui pose cette même question sur notre page Facebook. Mm-hmm. Est-ce que le bégaiement est héréditaire? Vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus, Anne-Lise Giraud?
Oui, c'est clair. Donc, c'est connu que le bégaiement a très probablement une source héréditaire. Les vrais jumeaux vont bégayer tous les deux. Et puis, les frères et sœurs ont 20% de chance. S'il y en a un qui bégaye, l'autre a 20% de chance de bégayer aussi. Et donc, il y a effectivement des gènes qui sont impliqués dans le bégaiement. On ne comprend pas exactement comment ça agit sur le cerveau, mais on sait que c'est à l'origine de ce trouble du développement qui va produire certaines anomalies.
Voilà, donc une réponse positive à votre question, Abdoulaye, sur la dimension héréditaire de ce bégaiement. Isabelle Lecron-Miossec, vous vouliez conclure avec Abdoulaye?
Oui, je voulais juste ajouter qu'il y a aussi des livres qui pourraient peut-être l'aider, hein, s'il n'a pas accès à une consultation d'orthophonie. Notamment, il y a un livre qui est aussi aux éditions Odile Jacob de Mireille Guéraud-Andel et Marie-Pierre Poula, Le bégaiement, comment le surmonter, qui est extrêmement bien fait, dans lequel vous pouvez trouver des aides et en tout cas avoir encore un peu plus d'informations et qui lui permettront sûrement de pas aller plus loin dans ce repli.
Voilà, une dimension aussi très psychologique, très importante à retenir pour éviter justement non seulement de se couper des siens, mais aussi de se couper de l'éducation, comme c'est le cas de votre fils Abdoulaye. Très bonne journée à vous à Dakar, au Sénégal. On va partir pour le Congo-Brazzaville, Brazzaville précisément, où l'on retrouve Flaubert. Bonjour Flaubert.
Bonjour Caroline.
On vous écoute Flaubert.
Oh oui, moi j'étais bègue. J'étais bègue pendant toute mon enfance. Ma maman a vraiment cherché pour que ma maladie puisse finir. Elle m'a mené chez des praticiens. J'ai bu de l'eau dans le mortier qu'on pile le piment. Mm-hmm. Oui, j'ai bu de l'eau dans la marmite qu'on a préparée, le foufou. Le foufou, c'est la farine de manioc. Mm-hmm. Oui, et puis, on m'a amené aussi au village, les chutes des rivières, là où l'eau chute. Mm-hmm. Et je criais à haute voix pour que ça finisse. Mais vraiment, on a fait beaucoup des rites en vain. Ça n'a pas marché. C'est quand je suis arrivé au lycée, j'ai rencontré un ami qui avait une troupe théâtrale qui m'a invité d'être aussi acteur, quoi, d'être comédien comme lui.
Et ça vous a changé la vie?
Oui, oui. À force de répéter, de faire la lecture à haute voix et de parler devant les gens, de présenter les spectacles devant les gens, vraiment aujourd'hui, bon, si je suis nerveux, je bégaye légèrement. Et surtout, quand je suis stressé, surtout, je bégaye légèrement. Mais quand je prends mon temps, je parle correctement. Vraiment, j'ai pu vaincre mon bégaiement moi-même.
Merci beaucoup, Flaubert, pour ce témoignage. Isabelle Lecron-Miossec, c'est peut-être une réponse indirecte à une question qu'on s'est posée tout à l'heure. Pour les personnes qui n'ont pas directement accès à l'orthophonie, au moins, ces performances, le théâtre, l'expression orale, c'est quelque chose qui ne peut qu'être bon.
Oui, tout à fait. C'est vrai que ce qui se passe dans le fait d'être dans une troupe de théâtre, il y a effectivement une exposition. Hein, la personne va se mettre à lire, à jouer. Donc ça déjà, c'est beaucoup. C'est accepter de se montrer et d'y aller, hein, et de pas rester justement en s'enfermant, en faisant des attitudes, en ayant des attitudes d'évitement. Hein, donc ça c'est une chose. C'est vrai qu'on sait que souvent les comédiens ne bégayent pas sur scène et peuvent bégayer dans la vie courante. Ce ne sont pas leurs mots. Hein, c'est pas non plus les mêmes circuits. Ils jouent un rôle, donc ils n'ont pas la même. C'est pas tout à fait les mêmes
applications. Sont la même chose. Quand les gens chantent, on peut chanter parfaitement en étant en souffrant de bégaiement.
Oui, et là en plus dans le chant, il y a vraiment l'appui sur tout ce qui est vocalisation, hein, avec les voyelles qui vont effectivement soutenir. Il y a beaucoup moins, on va être moins face à la production de phonèmes, de sons comme le p, le t, qui vont beaucoup plus mettre en jeu toutes ces tensions.
On voulait réagir, Annelise Giraud?
Oui, bah juste parce qu'il y a des explications très rationnelles et logiques à tout ça, qui est que les petites anomalies, elles sont dans notre cerveau gauche, qui justement prend en charge les événements rapides dans notre parole. Et lorsqu'on fait appel à des éléments lents, ils vont donc être produits plutôt par notre hémisphère droit, et ça va faciliter, puisque l'hémisphère droit, il fonctionne correctement, il a moins d'anomalies. Donc c'est logique que les gens trouvent exactement ce qu'il leur faut spontanément.
On va prendre un autre témoignage, une autre question, en rejoignant tout de suite en Côte d'Ivoire, à Abidjan, Oumar qui est en ligne. Oumar, bonjour.
Oui, bonjour Paris.
On vous écoute.
Oui, bon, en fait, moi, je parlerai sur ce sujet-là, parce que moi, depuis tout petit, je n'arrivais même pas à parler. Et ma mère, même, elle pleurait de temps en temps. Et moi-même, c'était très difficile pour moi. L'auditeur précédent qui a eu à parler de techniques, qui buvait de l'eau, de marmite, tout ça. Bon, ma mère a eu à en parler. Et bon, en fait, moi, ce qui était difficile, c'est que avec la colère, il était difficile de parler parce que il y a la voix qui ne sortait pas. Et j'ai eu des techniques parce que je coupais les mots. Quand je parlais, j'arrivais à faire des séquences de paroles. Je faisais des pauses avant de reprendre au fur et à mesure. Et ça m'a aidé beaucoup. Et sur ce sujet, beaucoup qui bégayent peuvent se pencher là-dessus. Parce que c'est des paroles qui libèrent au fur et à mesure. Parce que tu as conscience de ce que tu dis. Et au fur et à mesure, tu coupes les mots, tu reprends, tu coupes les mots un peu, tu reprends. Bon, moi, c'est ce qui m'a aidé. Au fur et à mesure, je parle parfaitement. Et puis, bon, je pense que c'est une question qu'on peut développer beaucoup, surtout pour des sujets qui m'aident.
Isabelle Lecromiosex, ce qui est remarquable, c'est qu'on entend avec nos auditeurs qui n'ont pas accès aux soins, qu'ils ont tous mis en place des techniques personnelles. Ils ont fait, on va dire, ils ont vraiment travaillé sur eux.
Absolument. Et de toute façon, même si un thérapeute, la personne doit travailler à l'extérieur des séances, c'est sur elle, sur elle-même.
Il n'est pas question de dire, c'est pas bien ce que vous avez fait parce que c'est improvisé. Non, au contraire,
absolument,
ça a fait ses preuves. Et en tout cas, c'est les ressources qu'ils ont pour venir et continuer à s'exprimer. Par exemple, quand Oumar nous dit, c'est comme s'il visualisait des séquences, des groupes de mots, et un groupe, puis un autre, alors que s'il voyait tout dans la continuité, ce serait quasiment une montagne impossible à franchir, alors que là, ce sont des petites collines à franchir les unes après les autres.
Oui, et là, il soulève quelque chose d'effectivement très intéressant. D'abord, de ralentir sa parole. Il a trouvé tout seul que ça allait l'aider et que les pauses avaient une importance capitale. Quand on bégaye et qu'on commence à parler avec ses fluides, on continue, on va de plus en plus vite parce qu'on se dit là, je bégaye pas, donc je vais continuer. Et évidemment, en fait, la situation est bien plus à risque que si on démarre d'emblée un peu plus lentement avec des pauses. Donc là, vraiment, c'est formidable parce qu'il a compris tout à fait ce qui allait l'aider. Moi, je l'incite à continuer absolument, à ralentir et à faire des pauses.
Merci beaucoup, en tout cas, Oumar, pour ce témoignage. On va partir dans quelques secondes pour le Gabon, retrouver l'un de vos consoeurs. Mais j'ai cette question qui s'adresse à vous, Anne-Lise Giraud. Une question Facebook de Paul qui est au Cameroun à Yaoundé. Naît-on avec le bégaiement ou devient-on bègue? Tout à l'heure, vous nous parliez de génétique, d'hérédité. Est-ce qu'on est bègue ou est-ce qu'on le devient pendant sa prime enfance? Est-ce qu'on le sait déjà?
Alors, c'est difficile de répondre parce que le terrain génétique, c'est toujours des prédispositions qui sont en interaction avec ce qui se passe en vrai. Donc, je dirais qu'on naît avec une prédisposition à devenir bègue et qu'on le devient selon les étapes du développement, selon l'environnement,
selon l'expérience,
etc.
de la vie. Alors, tout de suite, comme promis, on va partir pour le Gabon.
RFI.
Et on vous retrouve, docteur Andrea Nduna Depeno, bonjour.
Bonjour.
Oui, vous êtes orthophoniste.
Bonjour, madame.
Vous êtes orthophoniste au service otorhino-laryngologie du CHU de Libreville. Première question de base, est-ce que le bégaiement s'est connu au Gabon? On entend beaucoup d'auditeurs et beaucoup d'autres qui auraient voulu s'exprimer au cours de cette émission, qui nous racontent leur expérience du bégaiement. D'où cette question, comment ce trouble est perçu dans votre région?
Alors, le bégaiement est connu au Gabon. Apparemment, c'est un trouble qui est fréquent en Afrique. On rencontre beaucoup de personnes bègues ici. Comment il est perçu, il est toléré. Il y a beaucoup de procédés. On a déjà entendu tout à l'heure quelqu'un qui parlait de boire l'eau des chutes. Apparemment, nous avons tous les mêmes procédés techniques, les procédés traditionnels sur le souffle. Ça veut dire que c'est un trouble qui existe depuis longtemps et qui interpelle beaucoup la société.
Ça veut dire que si on a recours aux tradipraticiens, c'est que de tout temps, justement, on a essayé de trouver des solutions concrètes, pas forcément adaptées, mais en tout cas très concrètes pour venir en aide aux personnes qui souffraient de bégaiement.
Voilà, exactement. Exactement. Maintenant, ce qu'on ignore ici, c'est la rééducation orthophonique. Mais comme vous l'avez aussi entendu, beaucoup, les procédés traditionnels mettent beaucoup l'accent sur le souffle, ralentir le débit, mettre des pauses. Donc, ils sont déjà sur la voie des techniques de rééducation orthophonique.
Alors, justement, on connaît le problème, on connaît pas forcément les solutions. Vous, docteur Ndouna Depeno, vous traitez plutôt des enfants?
Je traite beaucoup d'enfants qui sont emmenés la plupart du temps par des parents bègues, et les parents ne veulent pas que leur enfant revive la même situation. Donc la majeure partie des patients sont des enfants, on a quelques adolescents, et les adultes, c'est ponctuel. Ils viennent vraiment pour des demandes précises. On a des étudiants qui viennent parce qu'ils ont des soutenances à faire, une présentation d'exposé, des personnes qui ont des réunions à mener et qui ont besoin de travailler des moments précis. Mais la majeure partie, ce sont des enfants.
On disait tout à l'heure, les gens ne savent pas forcément qu'il faut s'adresser à un orthophoniste. Précisément, vous êtes combien au Gabon?
Nous sommes peu nombreux, là. On commence à avancer. Nous étions 3 il n'y a pas longtemps. Maintenant, nous sommes 7 et on attend 3 qui sont en formation. Mais ça reste toujours dérisoire pour toute la population. Et les gens ne savent pas qu'ils peuvent s'adresser à l'orthophonie pour le bégaiement. Ça, ce sont les adultes qui arrivent, qui sont souvent envoyés par leurs dirigeants, donc professionnellement, pour régler ce problème parce que c'est un peu ennuyeux. Et ils disent qu'ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que l'orthophonie existait et que l'orthophonie pouvait les aider à guérir du bégaiement, enfin à le traiter.
Et justement, on entend nos auditeurs avoir recours à la débrouille, à l'auto-rééducation, on va dire. Justement, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller, dire de faire, justement, quand il est impossible de consulter un orthophoniste? On imagine s'il y a à peine une dizaine d'orthophonistes, pas facile d'accéder forcément à une consultation, surtout quand on est loin de la capitale et qu'on le sait, en matière d'orthophonie, il faut des séances régulières la plupart du temps, donc pas facile de faire des dizaines de kilomètres. Docteur Andrea Ndouna Depeno, qu'est-ce qu'on peut dire aux auditeurs de Priorité Santé quand un petit enfant souffre de bégaiement et qu'il n'y a pas d'orthophoniste à côté de la maison?
Moi, en général, je conseille de le mettre dans une pièce de théâtre, de faire du théâtre, de faire de la lecture à haute voix. Ça, c'est accessible. Ici, nous avons des groupes de chorale, des groupes de rencontres. Donc, il faut vraiment que l'enfant soit au contact des autres. Parce que ce qui se passe aussi souvent ici, c'est que les personnes ne savent pas que l'orthophonie peut les aider, mais les autres se moquent des personnes bègues. En fait, ils ne connaissent pas ce trouble, ils ont l'impression que la personne a peut-être une déficience intellectuelle quelque part aussi, mais ils n'arrivent pas à parler pour ça. Ils se moquent beaucoup, donc ça engendre beaucoup de souffrance de la part de ces personnes qui bégaient.
Merci beaucoup. Hein. On va reparler justement de ce regard des autres très important, docteur Andrea Ndouna Depeno. Je rappelle que vous êtes orthophoniste au service ORL du CHUO de Libreville.
RFI à Libreville, 104 FM.
On se retrouve pour conclure cet échange. Isabelle Lecron-Miossec, justement, regard des autres et dans le monde scolaire, à l'école, est-ce que ça a changé? Est-ce qu'aujourd'hui, les scolaires, les parascolaires, les personnels des écoles, quel que soit le niveau, hein, de la petite enfance, de la maternelle jusqu'au lycée, connaissent le bégaiement et savent comment réagir?
Alors ça aussi, c'est variable. Hein. Il y a des écoles et des profs, des enseignants, des instituteurs, autrice de maternelle qui commence vraiment bien à connaître et qui tout de suite maintenant alerte hein, quand ils sentent qu'il y a une difficulté. Mais malheureusement, c'est pas le cas de tous les enseignants. On entend encore parfois des enseignants qui disent c'est rien, ça va passer, donc faut attendre. Hein, nous on reçoit encore assez régulièrement des familles qui nous disent, ben oui, mais ça fait un an que moi je dis que mon enfant bégaye et l'institutrice m'a dit d'attendre. Alors heureusement, c'est pas la majorité, mais bon, c'est quand même un petit peu ennuyeux. Mais de plus en plus, l'information se diffuse, hein, notamment toujours avec l'association, ces plaquettes qui peuvent être communiquées. Quand moi je reçois une famille, je donne tout de suite une plaquette de l'association destinée à l'enseignant, hein, qui va pouvoir avoir des informations, qui saura aussi quels conseils et comment réagir face au bégaiement de l'enfant.
Alors quand on dit que quelqu'un qui souffrait de bégaiement, ce bégaiement a disparu, il est masqué ou il est toujours là ou il est vraiment éliminé et aujourd'hui la parole est fluide et sans aucun problème?
Alors là aussi ça dépend de l'âge. Si c'est chez des très jeunes enfants, effectivement, il peut y avoir une disparition, hein, totale du trouble, effectivement, et on peut se dire que c'est ces enfants qui ont fait une récupération, qui auraient peut-être fait une récupération spontanée. Hein. Chez les adultes, c'est plus compliqué. Y a pas, quand une fois que le bégaiement est installé, même s'il y a beaucoup moins de disfluence, ils vont quand même encore garder des moments un peu de fragilité, mais ils vont savoir, après un travail, gérer leur bégaiement, gérer leurs paroles, et pouvoir du coup avoir moins de stress, ou en tout cas mieux le gérer.
Annie Giraud.
Oui, donc il y a des bégaiements qui sont complètement récupérés. Je crois que la plupart des bégaiements va être très bien compensé par des stratégies, notamment qui impliquent l'hémisphère droit. Mais il y a des bégaiements absolument où en fait les zones qui sont un petit peu anormales, elles se mettent à refonctionner autour de la lésion. Et dans ces cas-là, on peut parler d'une vraie guérison.
Et on voit nos auditeurs non seulement qui ont des techniques, mais aussi qui ont des règles, on va dire, comportementales. Je vais lire ce témoignage parce qu'il est assez édifiant. Damidou, qui est à Bobo Dioulasso au Burkina, il dit « J'ai presque dompté mon mal en évitant tout simplement l'usage de mots difficiles. » Donc là, c'est stratégie d'évitement. Oui. « Éviter aussi d'être en colère est très bénéfique. Agir justement sur ce fameux calme. » Et il dit « Du fond de mon cœur, je souhaite du courage à tous ceux qui souffrent de cette maladie qui amène l'homme à être un reclus dans la société. » Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui, Isabelle Lecron-Miosset, que ceux qu'on appelait hier les bègues, ce qui est considéré aujourd'hui comme péjoratif, même si ça se dit encore en Afrique, les personnes qui souffrent de bégaiement sont encore des reclus de ce monde de parole et de communication?
Alors, s'ils n'ont absolument jamais consulté, qu'ils sont repliés sur eux et qu'ils n'ont rien fait pour ça, ils peuvent être effectivement reclus. Mais à la limite, on ne peut pas le savoir. Et il peut y avoir aussi des bégaiements masqués, comme ça, des personnes qui souffrent de bégaiements masqués.
Mais la solution, il faut dire qu'il y a des solutions qui existent.
Oui, là, bien sûr, les solutions, c'est effectivement d'aller en thérapie et on peut, au bout de quelques mois déjà, avoir des résultats absolument phénoménaux, hein, avec des personnes qui s'empêchaient de faire énormément d'actions dans leur vie courante et qui du coup vont oser faire, tout simplement, et aller demander un pain.
Le mot de la fin, Annie Giraud, il nous reste très peu de temps.
Non, oui, juste pour dire qu'on voit dans le cerveau, quand on observe donc à l'IRM, on voit les effets de la thérapie en quelques semaines. Mmh. Après 3 semaines de thérapie, tout a changé dans le cerveau, donc ça vaut effectivement le coup.
Mais c'est très encourageant donc de ne pas s'engager sur une très très longue durée. Merci beaucoup à toutes les deux, hein. Annelise Giraud, docteur en neurosciences, auteur de l'ouvrage Le cerveau et les mots de la parole chez Odile Jacob. Isabelle Lecron-Miosset, orthophoniste à Paris. On promet à nos auditeurs, on refera bientôt une émission sur le bégaiement parce que beaucoup de nos auditeurs sont restés aujourd'hui en suspens avec toutes leurs questions. On leur répondra très bientôt. Bien manger, c'est bon pour la santé. On en parle aujourd'hui avec vous, Stéphane Besançon. Bonjour.
Bonjour.
Directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali, nutritionniste. Aujourd'hui, on va parler des pains, pain blanc, pain complet, pain au levain, lequel choisir pour rester en bonne santé. Et on va commencer par une petite recette.
Alors d'abord, il faut repréciser qu'est-ce que c'est que le pain. C'est un aliment quand même qu'on trouve maintenant sur les tables du monde entier, qui remonte à l'Égypte et à l'Antiquité. Donc on est sur un quelque chose qui est très très vieux. Et rappelez aussi que pour fabriquer du pain, il faut 2 choses qui sont primordiales, c'est de la farine et de l'eau. Alors souvent on dit qu'il faut de la farine, de l'eau et du sel. Alors le sel effectivement est présent, mais il n'est pas obligatoire, mais il en faut quand même un petit peu pour agrémenter un peu le goût. Alors il faut aussi, pour faire du pain, utiliser des farines qu'on appelle panifiées. fortifiable, c'est-à-dire que c'est des farines qui vont avoir du gluten en fait dedans, qui vont permettre de donner les propriétés élastiques au pain pour pouvoir se former. Pour avoir cette propriété-là, c'est pas toutes les farines qui le permettent. En général, il y a trois farines principales, le blé, le seigle et l'avoine, et puis deux farines qui sont quand même très peu consommées, qui sont du dérivé de blé, qui sont de la farine de camut et d'épeutre, et qui vont permettre de faire du pain en pratique. Donc lorsqu'on ajoute cette farine, cette eau et la levure de boulanger, ou alors le levain, eh ben, il y a une fermentation qui va se mettre en place, qui va permettre de faire gonfler la pâte, de préparer la partie qui va devenir la mie, et c'est après cette pâte là qu'on va mettre au four traditionnel, au four à pain, où maintenant il y a différentes techniques qui se développent pour cuire le pain qu'on a l'habitude de consommer en produit fini.
Alors pour comprendre ces différents ingrédients, ces différents produits, une question sur la différence entre le pain fabriqué avec du levain et le pain fabriqué avec de la levure de boulanger.
La différence, elle est un peu chimique, c'est-à-dire que à la fois la levure de boulanger et le levain vont faire une fermentation, mais deux types de fermentation différentes au cours de la fabrication de ce pain. La levure de boulanger va provoquer une fermentation qu'on appelle alcoolique, elle va transformer les sucres en alcool éthylique et lancer le processus chimique, et de son côté, le levain va provoquer une fermentation lactique qui lui va transformer les sucres en acide lactique grâce à l'action de bactéries. Alors ça paraît une anecdote comme ça, mais en fait, dans la chaîne de réaction, ça va pas déclencher les mêmes sous-produits qui vont être transmis par le pain. Et ce qui est intéressant avec la fermentation du levain, c'est qu'il y a une enzyme qui va être produite, la phytase, qui va permettre de digérer l'acide phytique et en fait qui va libérer pas mal de micronutriments qui d'habitude sont à l'état un peu captif. Donc ça va rajouter un petit peu de nutriments dans le pain, donc ce qui va améliorer un peu sa consistance. Il va y avoir d'autres réactions chimiques qui vont faire aussi que l'index glycémique, c'est-à-dire la capacité de l'aliment à élever le taux de sucre dans le sang, va être un peu plus bas avec le pain au levain. On dit qu'en général il est entre 60, 65 plutôt, alors qu'avec d'autres modes de fermentation, il va être beaucoup plus haut, il va être aux alentours de 80. Donc ça aussi, ça lui donne un petit avantage nutritionnel.
Alors Stéphane, quelle est la différence nutritionnelle entre les autres sortes de pain que l'on peut trouver chez le boulanger ?
Alors, quand on rentre aujourd'hui dans une boulangerie, hein, tout le monde sait qu'il y a des dizaines et des dizaines de pains. Donc, je ne vais pas toutes les faire ici, on en aurait pour la journée. Mais j'en ai pris quatre principaux. Le pain complet, le pain au grain complet, c'est deux choses différentes. Le pain multicéréales et enfin le pain sans gluten. Alors, le pain complet, c'est le pain qui est produit à partir de la céréale avec son petit péricarpe, ce qu'on appelle le son. Donc, qui va être un tout petit peu plus riche, notamment en fibres et en certains micronutriments. Alors, en un petit peu plus riche encore, on a le pain, lui, qui va être total au grain complet, c'est-à-dire là, on a à la fois le péricarpe et l'enveloppe du grain, donc on va avoir encore plus de micronutriments, on aura plus de zinc, on aura plus de vitamines du groupe B, et on aura certains aussi oméga 3 et vitamine E. Alors après, on a le pain multicéréales, alors là, on va multiplier les céréales, ce qui veut dire qu'on va aussi multiplier les propriétés qu'on peut avoir. Et enfin, le dernier, j'allais dire, c'est le pain sans gluten, qui va être celui qui va être préparé avec une céréale qui sera donc pas du blé, qui va permettre de pas avoir de réaction pour les gens qui ont une intolérance au gluten. Alors, il faut savoir, la dernière chose, c'est que les pains multicéréales, en général, on a deux ou trois préparations classiques, hein. On a le pain de campagne qui mélange le blé et le seigle, deux tiers, un tiers à peu près blé et seigle. Et on a les pains qui peuvent aussi avoir de l'épeautre et du camut pour leur donner, là aussi, un petit peu plus de consistance.
Alors, voilà pour l'état des lieux. Du côté des recommandations, Stéphane, qu'est-ce que vous conseillez aux auditeurs de Priorité Santé ?
Alors, si on prend la théorie, ça va être le pain multicéréal au grain complet, puisque c'est celui qui aura à la fois le plus de fibres, à la fois le plus de micronutriments, et si possible au levain, du coup, puisqu'il va avoir en plus les phytases. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est comme il y aura ce péricarpe, et c'est là quand même que viennent se loger les pesticides. Donc, on risque d'avoir un pain qui va être meilleur nutritionnellement, mais qui peut être plus toxique. Donc, ce qu'il faut faire, c'est plutôt aller chercher cette forme de pain-là, mais faire attention d'aller chercher vers des pains qui sont produits à partir de céréales bio, qui vont permettre d'avoir la meilleure qualité nutritionnelle et pas de contamination par les produits phytosanitaires.
Merci beaucoup Stéphane Besançon. Je rappelle que vous êtes nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali. On se retrouve bientôt dans Priorité Santé. Et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour la fabrique, la réalise. C'est tout Samaké Ophélie, la scène Steven Esli. Aujourd'hui, Didier Cherouz. Demain, nous allons parler du mensonge dans le couple. On se retrouve demain.
C'était Priorité Santé avec Sunou Assurance. Comme nos clients dans plus de 14 pays, profitez d'une assurance santé toute option où que vous soyez. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Sunou Assurance, notre métier, l'assurance.